6. La foire des ténèbres de Ray Bradbury échappe à toute tentative d'analyse et de classification. Ainsi, du moins à ce jour, qu'à toute tentative d'adaptation cinématographique, en dépit de maintes options et de maints scénarios, dont un dû à Bradbury lui-même. Ce roman, publié en 1962, et promptement descendu en flammes par les critiques spécialisées de fantastique et de science-fiction, a fait l'objet d'une douzaine de réimpressions depuis cette date. Il ne s'agit pourtant pas du livre le plus vendu ni le plus célèbre de son auteur. Les Chroniques martiennes, Fahrenheit 451 et Le vin de l'été ont probablement eu des tirages supérieurs et sont sûrement mieux connus du grand public. Mais je pense personnellement que La foire des ténèbres, cette fable sombre et poétique située dans la ville mi-réelle, mi-mythique de Greentown, Illinois, est sans doute le chef-d'œuvre de Bradbury. Un conte s'inscrivant dans la lignée des légendes américaines consacrées à Paul Bunyan, à Pecos Bill et à Davy Crockett. Ce n'est pas un livre sans défaut. Bradbury y adopte parfois un style ampoulé, hélas trop fréquent dans ses textes datant des années 1970. Certains passages semblent presque parodiques à force de grandiloquence. Mais ce ne sont là que broutilles. Le plus souvent, Bradbury s'acquitte de sa tâche avec courage, élégance et panache. Et n'oublions pas que Theodore Dreiser, l'auteur de Sister Carrie et d'Une tragédie américaine, était parfois lui aussi enclin à de tels débordements, en particulier parce qu'il ne savait jamais s'arrêter à temps. « Quand tu ouvres la bouche, Stevie, on dirait que toutes tes tripes vont sortir », m'a dit un jour mon grand-père. Je n'ai pas su quoi lui répondre sur le moment, mais s'il était encore en vie, je lui dirais aujourd'hui « C'est parce que je veux être Theodore Dreiser quand je serai grand-papy ». Eh bien, Dreiser était un grand écrivain, et Bradbury m'apparaît comme le Dreiser de la littérature fantastique, avec un style nettement supérieur et une patte nettement moins lourde. Et ces deux auteurs ont nombre de points communs. Côté débit, tous deux ont tendance à attaquer leur sujet avec une telle vigueur qu'ils finissent par les jeter à terre. Après quoi, ils les piétinent vigoureusement jusqu'à ce qu'ils aient cessé de bouger. Côté crédit, Dreiser et Bradbury sont tous deux des naturalistes américains à l'esprit plutôt sombre, les pendants un peu bizarres de Sherwood Anderson, le champion toute catégorie du naturalisme américain. Tous deux s'intéressent aux habitants de l'Amérique profonde. Mais les personnages de Dreiser quittent leur campagne pour affronter la ville, alors que ceux de Bradbury restent chez eux. Et à la transition douloureuse de l'innocence vers l'expérience. Mais les personnages de Dreiser sont en général brisés par cette transition, alors que ceux de Bradbury gardent leur intégrité au prix de quelques changements. Et tous deux écrivent dans un style typiquement américain. Ils s'expriment dans une langue qui est claire et fluide, sans jamais être familière. Quand Bradbury se laisse aller à employer des mots d'argot, c'est si surprenant qu'il en semble presque vulgaire. Leurs voix, à tous deux, sont authentiquement américaines. La plus visible est sans doute la moins importante de leurs différences. C'est que Dreiser est considéré comme un auteur réaliste, alors que Bradbury est connu comme écrivain de fantastique. En outre, le principal éditeur de Bradbury en format de poche persiste à l'appeler « le plus grand auteur de science-fiction vivant », un slogan digne de ces phénomènes de foire qu'il aime tant, alors que jamais Bradbury n'a écrit un texte de SF pur et dur. Même lorsqu'il nous emmène dans l'espace, il se contrefiche de la propulsion ionique et des convertisseurs relativistes. « Il y a des fusées, dit-il dans le cycle de nouvelles qui forme Les Chroniques martiennes, R is for Rocket et S is for Space. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, et par conséquent, c'est tout ce que je vais vous dire. À cela, j'ajouterais que, si vous souhaitez savoir comment fonctionnent les fusées de cet hypothétique futur, adressez-vous à Larry Niven ou à Robert Heinlein. Si vous voulez de la littérature, des histoires, pour employer le terme que préfère Jack Finney, consacré à ce que nous réserve ce futur, adressez-vous à Ray Bradbury ou peut-être à Kurt Vonnegut. Les moteurs de fusée, ça regarde les mécanos. L'écrivain, lui. s'intéresse à ce qui fait fonctionner les gens. Cela dit, il est impossible de parler de La foire des ténèbres, qui ne relève absolument pas de la science-fiction, sans examiner l'œuvre de Bradbury dans son ensemble. Depuis ses débuts, il n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il travaillait dans le registre du fantastique, et plus précisément dans celui de l'horreur. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer, les meilleures de ses premières nouvelles ont été recueillies par Arkham House dans l'extraordinaire Dark Carnival. Il est aujourd'hui presque impossible de se procurer ce livre, le Jean de Dublin du fantastique américain. Mais la plupart des textes figurant à son sommaire ont été repris dans Le Pays d'Octobre, qui est toujours disponible en librairie. On y trouvera des classiques horrifiques tels que Le Bocal, La Foule et l'inoubliable Le Petit Assassin. Les autres contes que Bradbury a publiés durant les années 1940 sont si horrifiants qu'il les a aujourd'hui reniés. Avant cela, il avait accepté que certains d'entre eux soient adaptés en bande dessinée dans des EC Comics comme The Crypt of Terror. Parmi eux figure l'histoire de ce croque-mort qui se livre sur ses clients à des atrocités hideuses mais curieusement morales. Par exemple, lorsque trois commères particulièrement venimeuses meurent dans un accident de la circulation, le croque-mort décapite leurs cadavres et enfouit leurs trois têtes dans un cercueil, la bouche de l'une collée à l'oreille de l'autre, afin qu'elles puissent échanger des médisances jusqu'à la consommation des siècles. Bradbury nous explique lui-même comment La foire des ténèbres trouve ses sources dans sa propre vie. C'est parce que j'ai toujours adoré Lon Chaney et les monstres et les magiciens qu'il interprétait durant les années 1920 que j'ai écrit ce livre. Ma maman m'a emmené voir Notre-Dame de Paris en 1923, alors que j'avais 3 ans. Ça m'a marqué pour l'éternité. J'ai vu Le fantôme de l'opéra à l'âge de 6 ans. Même chose. 8 ans, à l'ouest de Zanzibar. Un magicien se transforme en squelette devant les indigènes. Incroyable. Idem pour le Club des Trois. Chani m'a marqué au fer rouge. J'étais un maniaque de cinéma avant de fêter mon 8e anniversaire. Et je suis devenu magicien à l'âge de 9 ans, après avoir assisté à une représentation de Blackstone à Waukegan, la ville de l'Illinois où j'ai vu le jour. Quand j'avais 12 ans, Mister Electrico et sa chaise électrique mobile ont débarqué chez nous avec le Deal Brothers Sideshows and Carnival. Et c'était son vrai nom. J'ai fait sa connaissance. On a passé des heures au bord du lac à parler philosophie. La sienne était modeste, la mienne était grandiose et futuriste. Nous avons échangé plusieurs lettres. Il vivait à Cairo, dans l'Illinois, et prétendait être un pasteur presbytérien défroqué. Comme je regrette d'avoir oublié son prénom. J'ai malheureusement perdu ses lettres au fil des ans, mais je n'ai pas oublié les petits tours de magie qu'il m'a enseignés. Bref, ma vie se résumait à la magie, à Lon Chaney et aux bibliothèques. À mes yeux, les bibliothèques sont les véritables matrices de l'univers. Je passais plus de temps à la bibliothèque publique de Waukegan que dans la maison de mes parents. J'adorais m'y trouver durant la nuit, rôdant dans les allées à pas de loup. Et tous ces éléments se sont retrouvés dans La foire des ténèbres, un roman dont le premier avatar fut une nouvelle parue dans Weird Tales en 1948. La grande roue, une nouvelle qui m'a semblé pousser toute seule. Bradbury n'a jamais cessé d'écrire et de publier du fantastique. Et bien que le Christian Science Monitor ait qualifié La foire des ténèbres d'allégorie cauchemardesque, Bradbury ne se livre à l'allégorie que dans le cadre de la science-fiction. Quand il travaille dans le registre du fantastique, il se préoccupe avant tout de ses thèmes, de ses personnages, de ses symboles et de cet enthousiasme débridé qui s'empare de l'écrivain de fantastique quand il appuie sur le champignon, donne un coup de volant et fait pénétrer le véhicule de son imagination dans la nuit noire de l'irréel. Écoutons encore Bradbury. En 1958, j'ai transformé La Grande Roue en scénario de film après avoir vu Invitation à la danse de Gene Kelly. J'avais tellement envie de travailler avec lui que je me suis précipité chez moi. J'ai rédigé un synopsis intitulé « Dark Carnival » et je suis aussitôt allé le lui porter. Kelly l'a adoré. Il m'a promis qu'il allait en faire un film. Il est parti en Europe chercher un financement. Il n'en a jamais trouvé. Il est revenu complètement découragé. Il m'a rendu mes 80 pages et m'a souhaité bonne chance. J'ai haussé les épaules, je me suis assis à mon bureau et j'ai passé les 2 années suivantes à écrire « La foire des ténèbres ». Ce livre m'a permis de dire tout ce que je voulais dire sur ma jeunesse, sur cette chose terrible qu'est la vie, sur cette autre terreur qu'est la mort et sur la façon dont toutes deux nous excitent. Mais j'ai surtout accompli un acte d'amour sans même m'en rendre compte. J'ai écrit un éloge de mon père. Je ne m'en suis aperçu qu'en 1965, quelques années après la publication de ce roman. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis allé faire un tour dans ma bibliothèque, j'ai pris ce roman, j'en ai relu quelques passages et j'ai éclaté en sanglots. Mon père était présent pour l'éternité dans les pages de ce livre. Comme je regrette qu'il n'ait plus été là pour le lire, comme il aurait été fier du courage avec lequel il défend son fils aimant. Alors même que j'écris ces lignes, je suis encore sous le choc de la joie et de la tristesse que j'ai éprouvée cette nuit-là en découvrant mon papa, éternellement, du moins pour moi, présent sur le papier, si beau et si brave. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Écrire ce livre m'a procuré un plaisir immense. Je n'y ai pas touché pendant 6 mois avant d'en rédiger la version définitive. Je ne me lasse jamais. Je me contente de laisser mon subconscient vomir un bon coup quand il en a envie. Ce livre est mon préféré parmi tous ceux que j'ai écrits. Je l'aimerais, lui et ses personnages, Papa et Mister Electrico, Will et Jim, les deux moitiés de moi-même, en proie à l'épreuve et à la tentation, jusqu'à la fin de mes jours. Cette division de Bradbury en 2 moitiés complémentaires est la première chose que l'on remarque dans « La foire des ténèbres ». Will Holloway, le bon garçon, enfin ils sont bons tous les deux, mais Jim s'écarte un moment du droit chemin, est né un 30 octobre, à 00:01. Jim Nightshade est né 2 minutes plus tard, à 00:01, le matin de Halloween. Will est un être apollinien, une créature de raison qui croit, le plus souvent, à la norme et au statu quo. Jim Nightshade, comme son nom l'indique, est son pendant dionysiaque, une créature d'émotion, un apprenti nihiliste, attiré par la destruction, prêt à cracher au visage du diable, rien que pour voir si sa salive va bouillir en coulant le long des joues du prince des ténèbres. Lorsque le vendeur de paratonnerre arrive en ville au tout début de ce fabuleux roman, juste avant l'orage, et dit aux deux garçons que l'éclair frappera la maison de Jim, Will doit convaincre celui-ci d'y installer un paratonnerre. Jim préférerait jouir du spectacle. « Pourquoi jouer les troubles-fêtes ? » déclare-t-il. La charge symbolique de cette date de naissance est si grossière qu'elle crève les yeux. Idem pour le vendeur de paratonnerre, qui est de toute évidence venu annoncer des temps difficiles. Mais Bradbury tire néanmoins son épingle du jeu, en grande partie grâce à son courage. Il manipule sans crainte les archétypes les plus colossaux. Greentown reçoit la visite d'une fête foraine itinérante, baptisée du nom sublime de « Pandemonium de Cougar and Clark », et qui apporte avec elle la misère et l'horreur dissimulées sous un vernis de plaisir et d'émerveillement. Will Holloway et Jim Nightshade, rejoint par Charles, le père de Will, découvre la véritable nature de cette foire. Le récit se concentre sur une lutte dont l'enjeu est le salut d'une âme, celle de Jim Nightshade. Qualifier ce roman d'allégorie serait une erreur, mais on peut le considérer comme un conte d'horreur morale, bien dans le style des EC Comics qui l'ont précédé sur ce terrain. En fait, ce qui arrive à Jim et à Will évoque les aventures de Pinocchio sur l'île des plaisirs, un lieu où les garçons qui assouvissent leurs pulsions malsaines, fumer le cigare et jouer au billard par exemple, se voient transformés en baudets. Bradbury traite ici des tentations charnelles, pas seulement de sexualité, mais de toutes les manifestations de nature charnelle, des plaisirs de la chair aussi variés et aussi fascinants que les tatouages recouvrant le corps de Mr. Dark. ce qui empêche le roman de Bradbury de sombrer dans l'allégorie cauchemardesque ou dans le conte de fées simpliste, c'est sa maîtrise du style et de la narration. Le style de Bradbury, qui m'a tant séduit durant mon adolescence, me semble aujourd'hui un peu trop doucereux, mais il a gardé toute sa puissance. Voici un des passages un peu trop doucereux à mon goût. Et Will ? Eh bien, Will est la dernière pêche restée tout en haut de l'arbre en plein été. Certains garçonnets qui passent devant vous vous donnent envie de pleurer. Ils se sentent bien, ils ont l'air bons et le sont. Oh, ils sont parfaitement capables de pisser du haut d'un pont ou de voler un taille-crayon bon marché à l'occasion, là n'est pas le problème. C'est simplement que vous savez, en les voyant passer, qu'ils seront ainsi toute leur vie. Ils prendront des coups, souffriront, récolteront coupures et ecchymoses, en se demandant toujours pourquoi c'est arrivé. Comment cela leur est arrivé à eux ? Et en voici un autre qui me semble parfait. Les plaintes de toute une vie y étaient rassemblées, dans un sifflet de train, émanant d'autres nuits, en d'autres années ensommeillées, hurlements de chiens rêvant à la lune, gémissements à vous figer le sang des vents glacés traversant les palissades de janvier, appels de mille sirènes d'incendie, ou pire, souffles effilochés, clameurs de milliards de morts ou de mourants luttant contre la mort et répandant brusquement leurs râles et leurs soupirs sur la terre. Ça, c'est un sifflet de train, je peux vous le dire. De tous les livres abordés dans ces pages, La Foire des Ténèbres est celui qui reflète le mieux la différence entre l'apollinien et le dionysiaque. La Foire de Bradbury, qui franchit en douce les limites de la ville et se monte dans un pré à 3 heures du matin, au cœur de la nuit de l'âme, comme disait Fitzgerald, symbolise tout ce qui est anormal, mutant, monstrueux, bref, dionysiaque. Je me suis toujours demandé si la fascination exercée sur les enfants par le mythe du vampire ne s'expliquait pas en partie par le fait que le vampire dort le jour et vit la nuit. Et en plus, le vampire ne va pas à l'école, ce qui lui permet de voir les films d'horreur qu'on passe à minuit à la télé. De la même manière, nous savons que si cette foire des ténèbres exerce une telle attraction sur Jim et sur Will, eh oui, Will n'y est pas insensible, même s'il est moins vulnérable que son ami Jim. Même le père de Will entend ce sinistre chant des sirènes. C'est parce qu'elle les dispensera des couchers à heure fixe, des règles de conduite, de la routine de leur petite ville, des injonctions du genre « Mange tes choux, pense aux petits Chinois qui meurent de faim » et surtout de l'école. Cette foire, c'est le chaos. C'est le territoire tabou devenu ambulant comme par magie, qui va d'un lieu à l'autre, et même d'une époque à l'autre, avec sa cargaison de phénomènes et d'attractions si tentantes. Les deux garçons, oui, même Jim, représentent l'exact contraire de tout ceci. Ils participent de la norme, ne sont ni mutants ni monstrueux. Ils vivent dans l'obéissance des règles de la lumière. Will sans rechigner et Jim avec une certaine irritation. Et c'est exactement pour cela que la foire les désire. L'essence du mal, nous suggère Bradbury, c'est son besoin de compromettre et de corrompre ce passage de l'innocence à l'expérience que doivent vivre tous les enfants. Dans l'univers strict et sévère de ce livre, les phénomènes de foire ont un aspect extérieur qui répond à leur vice caché. Mr. Cougar, qui a vécu plusieurs millénaires, paye le prix de son existence dégénérée en devenant une chose encore plus ancienne, d'une antiquité quasiment inconcevable que seul un flot régulier d'électricité peut maintenir en vie. Le squelette paye le prix de son avarice affective. L'homme gras, celui de son appétit de jouissance. La sorcière poussière, celui de ses médisances nuisibles. La foire leur a infligé un traitement similaire à celui que le croque-mort mentionné plus haut infligeait à ses clients. Du point de vue apollinien, ce roman nous demande de réexaminer les faits et les mythes de notre propre enfance, en particulier si nous avons vécu celle-ci dans une petite ville américaine. Dans un style semi-poétique, qui semble convenir à merveille à de telles préoccupations, Bradbury examine son enfance et parvient à la conclusion suivante. Seuls les enfants sont équipés pour affronter les mythes, les terreurs et les exaltations de l'enfance. Dans sa nouvelle intitulée « Le terrain de jeu », un homme qui retombe en enfance par magie se retrouve dans un univers d'horreur et de folie qui n'est autre qu'un jardin d'enfants des plus banals, avec ses bacs à sable et son toboggan. Dans « La foire des ténèbres », Bradbury relie le motif bucolique de l'enfance américaine à la plupart des thèmes du nouveau gothique américain, dont nous avons discuté précédemment. Will et Jim sont des êtres essentiellement bons, essentiellement apolliniens, bien à l'aise dans leur enfance et habitués à considérer le monde d'une hauteur de 3 pommes. Mais lorsque leur institutrice, Miss Foley, retombe en enfance, la première des citoyens de Greentown à être victime de la foire, elle se retrouve dans un univers d'horreur et de monotonie qui n'est guère différent de celui où échoue le protagoniste du terrain de jeu. C'est sous un arbre que les deux garçons découvrent Miss Foley, ou ce qu'il en reste. La petite fille était là, accroupie, le visage caché dans ses mains, pleurant, comme si la ville avait disparu avec tous ses habitants et qu'elle-même s'était perdue dans une forêt terrifiante. Enfin, Jim se décida, s'approcha doucement et s'arrêta à la lisière de l'ombre. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Je ne sais pas. » Mais Will sentit les larmes lui monter aux yeux, comme si une part de lui-même avait déjà deviné. « Ce n'est pas Jenny Holridge, n'est-ce pas ?»«
Non. »«
Jane Franklin ?»«
Non. »
Il eut l'impression d'avoir la bouche pleine de novocaïne. Sa langue pouvait à peine remuer entre ses lèvres engourdies. La petite fille continuait à pleurer. Elle les sentait près d'elle, mais n'avait pas encore levé les yeux.
« Moi, aidez-moi. Personne ne veut m'aider. Je n'aime pas ça. Il faut que quelqu'un m'aide. Il faut que quelqu'un vienne à son aide. »
Se lamentait-elle comme pour une personne défunte.
« Il faut que quelqu'un l'aide, mais personne ne le fera. Personne ne l'a fait. Horrible. Horrible. »
L'attraction foraine responsable de ce sale tour est de celle que Narcisse et Eleanor Vance trouveraient fort séduisante. Miss Foley a été capturée par le labyrinthe des miroirs, emprisonnée par son propre reflet. On lui a enlevé d'un coup 40 ou 50 ans afin de lui faire retrouver son enfance, un sort qu'elle semblait désirer ardemment. Elle n'avait pas envisagé l'existence de cette petite fille sans nom, sanglotant sous un arbre. Jim et Will évitent, de justesse, de subir le même sort, et ils réussissent même à sauver Miss Foley lors de son premier passage dans le labyrinthe des miroirs. On suppose que ce n'est pas le dit labyrinthe, mais plutôt le manège qui est responsable de son subit rajeunissement. Les miroirs vous montrent une période de votre vie que vous souhaiteriez revivre, et le manège exauce votre vœu. Ce manège vous fait vieillir d'un an chaque fois que vous y faites un tour dans le sens de la marche, et il vous fait rajeunir d'un an à chaque tour effectué dans l'autre sens. Bradbury a trouvé là une métaphore aussi intéressante qu'efficace pour toutes les transitions de l'existence. Et le fait qu'il part de sombres couleurs, cette attraction foraine, laquelle est souvent associée aux plaisirs les plus lumineux de notre enfance, pour la rendre conforme aux ténébreuses visées de sa foire, suscite en nous d'autres associations d'idées inquiétantes. Quand nous considérons ce manège si innocent d'aspect, avec ses chevaux fougueux et ses lumières crues, il nous suggère que, si les transitions de la vie sont comparables à un tour de manège, alors chaque année est essentiellement semblable à la précédente. Et nous nous rappelons que ce plaisir-là est bien éphémère. Et surtout, nous nous rappelons que le pompon, que nous avons si souvent tenté de saisir en vain, est toujours délibérément placé hors de notre portée. Dans le contexte du nouveau gothique américain, le labyrinthe des miroirs apparaît à nos yeux comme un piège, un lieu où un excès d'introspection pousse le sujet, en l'occurrence Miss Foley, à franchir la frontière séparant le normal de l'anormal. Dans l'univers de Bradbury, l'univers du Pandemonium de Cougar and Dark, les options sont des plus limitées. Si vous vous laissez séduire par le miroir de Narcisse, vous ne tardez pas à vous retrouver sur un dangereux manège qui vous précipite dans un passé ou un avenir également insoutenable. Shirley Jackson utilise les conventions du nouveau gothique américain pour examiner des personnages placés dans des conditions extrêmes de pression psychologique ou occulte. Peter Straub les utilise pour examiner les effets sur le présent d'un passé maléfique. Anne Rivers-Siddons pour examiner les convenances et les pressions sociales. Bradbury, quant à lui, tire de ces conventions un jugement moral. Lorsqu'il nous décrit l'horreur et le chagrin qui envahissent Miss Foley une fois qu'elle a retrouvé son enfance, Bradbury désamorce en grande partie le flot de romantisme sirupeux qui menaçait de déferler sur son récit. Et je pense que cela renforce d'autant le jugement moral qu'il souhaite nous communiquer. En dépit d'une imagerie qui se montre parfois étouffante, là où elle devrait être libératrice, il réussit à préserver la clarté de son point de vue. Ce qui ne veut pas dire que Bradbury ne transforme pas l'enfance en mythe romantique, car c'est précisément ce qu'il fait. L'enfance est un mythe pour presque chacun d'entre nous. Nous pensons nous souvenir de ce qui nous est arrivé quand nous étions gamins, mais nous nous trompons. Et ceci pour une raison toute simple. Nous étions tous dingues à l'époque. Quand nous réexaminons notre enfance une fois parvenue à l'âge adulte, étant ainsi passé de la psychose absolue à une névrose relative, nous tentons de donner un sens aux événements qui l'ont émaillé. Nous accordons de l'importance à des choses qui n'en avaient aucune. Nous nous reconnaissons des motivations que nous n'avons jamais eues. C'est ainsi que se façonne le mythe. Plutôt que de chercher à lutter contre le courant, s'opposant ainsi à Golding et à Hughes, Bradbury en tire un merveilleux parti dans La Foire des Ténèbres, mêlant au mythe de l'enfance celui du père rêvé, en la personne de Charles Holloway, le père de Will, qui est aussi, à en croire Bradbury, celui de l'auteur. Holloway est un bibliothécaire qui a sa propre vie rêvée, qui est resté assez jeune d'esprit pour comprendre Will et Jim, mais qui est aussi assez adulte pour faire entrer en jeu une qualité dont les deux garçons sont exempts, un ingrédient essentiel dans la composition de l'Apollinien, cet être moral, normal et droit, le sens des responsabilités. L'enfance, nous dit Bradbury, est la seule période où on peut croire en des choses qu'on sait être fausses.
De toute façon, c'est du bidon, halta Will. Les fêtes foraines ne se déplacent pas en fin d'année, c'est absurde. Qui s'y rendrait ?
Moi, souffla Jim immobile.
Et moi aussi, songea Will en imaginant l'éclat métallique du couperet, la lumière en accordéon des miroirs égyptiens et la peau jaunâtre de l'homme démoniaque sirotant de la lave comme si ce n'était qu'un bol de thé vert.
Ils y croient. Leur cœur est encore capable de triompher de leur tête. Ils sont sûrs qu'ils parviendront à vendre suffisamment de cartes de vœux ou de boîtes de baume cloverine pour s'acheter un vélo ou un tourne-disque, que tel jouet est capable de toutes les prouesses décrites par la télé et qu'on peut l'assembler en quelques minutes à peine à l'aide des outils les plus simples, ou que le film d'horreur que passe le cinéma de leur ville sera aussi terrifiant et merveilleux que le prétend l'affiche. Mais ce n'est pas grave. Dans l'univers de Bradbury, le mythe est en fin de compte plus fort que la réalité, le cœur plus fort que la tête. Will et Jim sont l'exact contraire des garçons sordides, sales et terrifiés de Sa Majesté des Mouches. Des créatures d'essence mythique, des enfants de rêve que la plume de Bradbury rend plus crédible que la réalité. Tout au long de l'après-midi, Will et Jim s'en étaient donnés à cœur joie, passant tels des éclairs parmi les attractions, chamboulant des bouteilles de lait poussiéreuses, cassant des pipes en plâtre pour gagner de la vaisselle, reniflant, écoutant, se faufilant dans la foule qui piétinait la sueur couverte de feuilles mortes. Au fait, où ont-ils trouvé le financement nécessaire à cette partie de plaisir? Dans une situation identique, la plupart des gosses doivent compter leurs sous et faire des choix draconiens. Apparemment, Jim et Will n'ont pas ce problème. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Ce sont nos ambassadeurs dans les terres oubliées de l'enfance, et nous acceptons avec joie et presque sans hésitation leur provision de liquide apparemment inépuisable, plus leur habileté à casser pipes en plâtre et bouteilles de lait. Nous croyons, comme nous avons jadis cru que Pecos Bill avait creusé le Grand Canyon,
Le jour où, un peu plus fatigué que d'habitude, il avait laissé traîner par terre sa pelle et sa pioche au lieu de les porter sur son épaule. Jim et Will connaissent la terreur, mais ces enfants mythiques ont le pouvoir de jouir de leur terreur. Ils s'arrêtèrent pour savourer les battements accélérés de leurs cœurs respectifs, écrit Bradbury. Cougar et Dark deviennent l'incarnation du mal, menaçant les deux enfants comme jamais ne le feraient des gangsters, des kidnappeurs ou de quelconque méchant réaliste. Cougar évoque Pew, le marin aveugle de l'île au trésor, qui échangerait sa cécité contre une hideuse masse d'années quand le manège vient à s'emballer. Lorsqu'il lance aux deux garçons de sa voix sifflante « Que votre vie soit courte et triste !» nous sommes parcourus par le même frisson confortable qui nous a secoué la première fois que nous avons lu le classique de Stevenson. Lorsque Jim et Will se cachent pour échapper aux émissaires de la foire, qui prennent prétexte d'une parade pour fouiller la ville de fond en comble, Bradbury nous offre la meilleure description possible de l'enfance mythique. Une enfance qui a peut-être existé sous forme de moments forts, entre de longues périodes d'ennui et de corvées diverses, porter du bois, faire la vaisselle, sortir les poubelles, garder le petit frère ou la petite sœur. Et il est sans doute significatif que nos deux enfants de rêve soient des fils uniques. Ils s'étaient cachés dans des garages désaffectés et dans des granges désertes. Ils s'étaient blottis dans les arbres les plus hauts qu'ils avaient pu escalader et s'y étaient ennuyés au point que l'ennui, devenu pire que la peur, les avait poussés à redescendre. Ils étaient allés voir le commissaire avec qui ils étaient restés à bavarder, s'assurant ainsi 20 minutes de sécurité au poste de police. Puis Will avait eu l'idée de faire le tour des églises. Ils étaient montés dans tous les clochers de la ville, effrayant les pigeons des beffrois. Mais là aussi, ils s'étaient vite ennuyés, tellement les clochers se ressemblaient. Ils avaient failli capituler et aller à la fête foraine pour avoir quelque chose à faire, quand, fort heureusement, le soleil s'était couché. Le seul antidote efficace à ces enfants de rêve, c'est Charles Holloway, le père rêvé. Ce personnage est doué d'une séduction que seul le fantastique, genre créateur de mythes s'il en fut, est susceptible de nous offrir. Trois de ses qualités méritent, à mon sens, d'être soulignées. Premièrement, Charles Holloway comprend parfaitement le mythe de l'enfance que vivent les deux garçons. Au sortir de l'enfance, nombre d'entre nous conservent des souvenirs amers de leurs parents, qui ne les ont apparemment jamais compris, et Bradbury brosse dans ce livre le portrait du père que nous aurions voulu avoir. Ses réactions sont de celles que peu de vrais parents peuvent se permettre d'avoir. Et son instinct paternel semble quasiment surnaturel. Au début du bouquin, il entend les deux garçons rentrer en pleine nuit après avoir vu la foire s'installer. Il prononce leur nom à voix basse et s'en tient là. Et il ne dit rien à Will par la suite, bien que son copain et lui aient découché à 3 heures du matin. Il est sûr qu'il n'était pas en train de fumer de l'herbe, d'agresser des vieilles dames ou de ploter leur petite copine. Il sait qu'il s'affairait à des affaires de petits garçons, que ces affaires-là se traitaient de nuit comme ça arrive parfois, et il n'insiste pas. Deuxièmement, Charles Holloway a des raisons légitimes pour faire preuve d'une telle compréhension. Il est encore en train de vivre le mythe. Le père ne peut pas être un copain pour le fils, nous disent les manuels de psychologie, mais rares sont les pères, je crois bien, qui n'ont jamais rêvé d'être les copains de leur fils, et rares les fils qui n'ont pas rêvé d'un père copain. Lorsque Charles Holloway découvre que Jim et Will se sont bricolés des échelles de fortune, dissimulées sous le lierre de leurs maisons respectives, afin de pouvoir entrer et sortir de leur chambre à leur guise, il n'exige pas que les dites échelles soient démantelées. Il se contente de rire avec admiration et de leur conseiller de n'utiliser ces échelles qu'en cas de nécessité absolue. Lorsque Will dit à son père que personne ne les croira, s'ils essaient d'expliquer ce qui s'est vraiment passé dans la maison de Miss Foley, ou le sinistre neveu Robert, qui n'est autre que Mr. Cougar après quelques tours de manège à reculons, les a accusés de vol, Holloway se contente de dire « Je vous crois ». S'il les croit, c'est parce qu'il est en fait des leurs, et parce qu'il a gardé intacte en lui sa capacité à s'émerveiller. Plus tard, alors qu'il fouille dans ses poches, Charles Holloway nous apparaît comme une version vieillie de Tom Sawyer. Il se leva, bourra sa pipe, chercha des allumettes dans ses poches, en tira un harmonica tout bosselé, un canif, un briquet qui ne marchait pas, et un carnet dans lequel il avait toujours voulu noter des pensées profondes, mais ne l'avait jamais fait. Bref, tout un tas de choses, sauf un ramor et une ficelle pour le balancer au bout. Troisièmement, Charles Holloway est le père rêvé tout simplement parce qu'on peut compter sur lui. Il peut changer de casquette en un clin d'œil, passant de l'état d'enfant à celui d'adulte. C'est par un acte hautement symbolique qu'il prouve son sens des responsabilités. Lorsque Mr. Dark lui demande son nom, Holloway le lui donne.
« Passez une bonne journée, monsieur !»«
Non, papa !» songea Will.
L'homme illustré revint sur ses pas.
« Comment vous appelez-vous, monsieur ? »
demanda-t-il sans embâge.
« Ne le lui dis pas !»
pensa Will. Son père hésita un instant, retira le cigare de sa bouche, en fit tomber la cendre, puis répondit d'une voix douce. « Holloway, je suis employé à la bibliothèque. Passez m'y voir un de ces jours. »
« Vous pouvez compter sur moi, monsieur Holloway. »
Charles Holloway se contemplait également avec surprise. Il acceptait avec étonnement sa détermination toute nouvelle, empreinte à la fois de sérénité et de désespoir, en se rendant compte de l'incroyable exploit qu'il venait d'accomplir. Qu'on ne lui demande pas pourquoi il avait donné son vrai nom. Lui-même n'aurait su l'expliquer ni mesurer sa véritable importance. Et s'il a donné son vrai nom, n'est-ce pas parce que les deux garçons ne le peuvent pas ? C'est à lui de les protéger, et il le fait admirablement bien. Et lorsque les sombres pulsions de Jim finissent par le conduire aux portes de la mort, c'est Holloway qui se dresse devant nous, détruisant la redoutable sorcière poussière, puis Mr. Dark lui-même, et se lançant dans la bataille pour sauver la vie et l'âme de Jim. Comme je l'ai dit plus haut, la foire des ténèbres n'est sans doute pas ce que Bradbury a fait de mieux. La forme romanesque lui pose à mon sens certaines difficultés. Mais l'ambiance mythique de ce livre colle si bien à sa prose onirique et semi-poétique qu'il finit par emporter l'adhésion, et nous offre un de ses rares livres dévolus à l'enfance, tel « Cyclone à la Jamaïque » de Hughes, « L'île au trésor » de Stevenson, « La guerre des chocolats » de Robert Cormier et « Tsuga's Children » de Thomas Williams, pour n'en citer que quelques-uns, que les adultes seraient bien inspirés d'acheter de temps à autre, pas seulement pour les offrir à leurs enfants, mais aussi pour renouer le contact avec les rêves lumineux et les sombres cauchemars de l'enfance. Bradbury place en exergue de son livre une citation de Yeats. « L'homme est amoureux et aime ce qui s'enfuit. » Il cite aussi d'autres auteurs, mais vous conviendrez sans doute avec moi que Yeats nous suffit amplement. Mais laissons le dernier mot à Bradbury lui-même, qui nous explique une des raisons pour lesquelles Greentown fascine tellement ses deux enfants de rêve. Ma pierre tombale ? J'aimerais emprunter le grand pilier rouge et blanc du salon de coiffure et le faire tourner à minuit si jamais vous venez faire un tour sur ma tombe pour me dire bonjour. Et il serait là, ce grand pilier, tout éclairé, sa spirale rouge et blanc tournoyant mystérieusement, vous emportant à jamais vers d'autres mystères. Et si vous venez me rendre visite, laissez une pomme pour les spectres. Une pomme, ou alors un ramor et une ficelle pour le balancer au bout. 7. L'homme qui rétrécit, 1956, de Richard Matheson, est lui aussi un roman de fantastique étiqueté science-fiction, car publié durant une décennie rationaliste, où même les rêves devaient être peu ou prou basés sur la réalité. Et cette erreur d'étiquetage s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce que c'est ainsi que fonctionne le monde de l'édition. Un des plus incroyables classiques de la science-fiction de tous les temps, proclame la couverture d'une récente réédition chez Berkeley, ignorant le fait qu'une histoire où un homme rétrécit au rythme uniforme d'un septième de pouce par jour a franchi les frontières les plus reculées de la SF. Tout comme Bradbury,
Matheson n'a aucun intérêt pour la SF pure et dure. Il fournit à son lecteur la quantité obligatoire d'explications vaseuses. J'aime bien celle du toubib qui s'extasie sur l'incroyable catabolisme de Scott Carey, puis passe à autre chose. Nous savons que ce processus, au terme duquel Scott Carey est obligé d'affronter une veuve noire dans sa cave, a été enclenché le jour où il a traversé un banc de brume radioactive. Cette brume a réagi avec des traces d'insecticides présentes dans son organisme depuis quelques jours. C'est l'interaction de ces deux phénomènes qui cause son rétrécissement continu. Il s'agit là de la plus minime des concessions au rationalisme, l'équivalent de ce qu'étaient jadis les pentagrammes, les charmes et les passes magiques. Heureusement pour nous, Matheson, tout comme Bradbury, s'intéresse davantage au cœur et à l'esprit de Scott Carey qu'à son incroyable catabolisme. Il convient de souligner que l'homme qui rétrécit nous ramène à ce bon vieux blues de la radioactivité et à l'idée que l'horreur nous aide à exprimer de façon symbolique les angoisses qui nous tourmentent. Il est impossible de dissocier l'homme qui rétrécit du contexte de son époque. Essais nucléaires, ICBM, course aux armements et lait pollué au strontium-90. Vu sous cet angle, le roman de Matheson, son deuxième livre publié, selon John Brosnan et John Clute, qui ont rédigé la notice consacrée à Matheson dans « The Science Fiction Encyclopedia »,« Je suis une légende » étant le premier, je pense qu'ils ont oublié l'existence d'un roman de guerre intitulé « The Beardless Warriors », ne relève pas plus de la SF que certains films de grosses bêtes, tels que « La chose surgit des ténèbres » ou « Beginning of the End ». Mais les cauchemars que Matheson aborde dans L'homme qui rétrécit ne sont pas seulement inspirés par la radioactivité. Le titre de ce livre suffit à suggérer des mauvais rêves de nature plus freudienne. Dans son introduction à l'invasion des profanateurs, Richard Guy Powers attribuait la victoire de Miles Bennell sur l'Écosse à sa résistance face à la dépersonnalisation, à son individualisme farouche et à sa défense des valeurs américaines traditionnelles. On peut faire les mêmes remarques à propos du roman de Matheson, excepté sur un point. Il me semble que, si Powers a raison de suggérer que l'un des sujets de l'invasion des profanateurs est la dépersonnalisation, voire l'annihilation de la personnalité libre dont souffre notre société, celui de l'homme qui rétrécit est la façon dont cette personnalité libre perd son pouvoir et sa puissance dans un univers de plus en plus contrôlé par les machines et la paperasse. Sans oublier cet équilibre de la terreur où les guerres futures sont planifiées en fonction d'un taux de perte acceptable. Scott Carey nous apparaît comme un des symboles les plus inspirés et les plus originaux de cette dévaluation de la personne humaine. À un moment donné, Carey songe que ce n'est pas lui qui rétrécit, que c'est le reste du monde qui s'agrandit. Mais dans les deux cas, dévaluation de l'individu ou inflation de l'environnement, le résultat est le même. À mesure que Scott rétrécit, il conserve l'essence de son individualité, mais perd peu à peu tout contrôle sur le monde qui l'entoure. En outre, tout comme Finney, Matheson considère son œuvre comme une histoire et rien de plus. Une histoire avec laquelle, d'ailleurs, il ne se sent plus guère d'affinité aujourd'hui. Voici ce qu'il a à en dire. J'ai commencé à travailler sur ce livre en 1955. C'est le seul livre que j'ai écrit sur la côte Est, à l'exception d'un roman que j'ai rédigé à l'âge de 16 ans alors que je vivais à Brooklyn. Ma situation devenait difficile ici, en Californie, et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de retourner dans l'Est afin de me rapprocher des éditeurs. J'avais renoncé à percer dans le cinéma. En fait, il n'y avait rien de rationnel dans cette décision. J'en avais tout simplement marre de la côte Ouest, et je me suis mis dans la tête que je devais retourner à l'autre bout du pays. C'était là que vivait ma famille. Mon frère dirigeait une petite entreprise, et je savais qu'il me procurerait du travail si je n'arrivais pas à placer mes textes. On a donc déménagé. Nous louions une maison à Sound Beach, à Long Island, pendant que j'écrivais ce livre. L'idée m'en était venue plusieurs années plus tôt, alors que je regardais un film au Redondo Beach Theater. C'était une comédie un peu bêtasse, interprétée par Ray Milland, Jane Wyman et Aldo Ray. Et il y avait une scène où Ray Milland, pressé de quitter l'appartement de Jane Wyman, se trompait de chapeau
et émettait celui d'Aldo Ray qui lui descendait jusqu'en bas des oreilles. Je me suis dit, que se passerait-il s'il arrivait la même chose à un homme mettant son propre chapeau? C'est ainsi que tout a commencé. La totalité de ce roman était écrite dans la cave de cette maison de Long Island. Ce fut une excellente idée. Je n'ai rien changé à cette cave. Il s'y trouvait un fauteuil à bascule, et chaque matin je descendais à la cave avec un bloc et un crayon, et j'imaginais ce qui allait arriver à mon héros ce jour-là. Je n'avais nul besoin de visualiser le lieu de l'action ni de consulter des notes. Tout était là devant moi. Quand j'ai assisté au tournage du film, j'ai été troublé en découvrant la cave conçue par les décorateurs, car elle me rappelait beaucoup celle de Sound Beach, et j'ai ressenti sur le moment une agréable sensation de déjà-vu. Il m'a fallu environ 2 mois et demi pour écrire ce livre. J'avais commencé avec le plan qui fut par la suite adopté pour le film, c'est-à-dire un plan rigoureusement chronologique. Mais ça ne marchait pas, car on mettait trop de temps à arriver au bon passage. Alors je suis reparti de zéro, en plongeant directement le lecteur dans l'univers de la cave. Il y a quelque temps, il était question de tourner un remake du film, et j'ai cru que les producteurs souhaitaient que j'y collabore, si bien que j'ai décidé de respecter la structure du livre en rédigeant mon scénario, car les bons passages se faisaient aussi un peu attendre dans le premier film. Mais les producteurs avaient en fait envie de tourner une comédie avec Lily Tomlin, et il n'était pas question que j'en écrive le scénario. À l'époque, John Landis avait accepté de se charger de la mise en scène, et il voulait que tout un tas de gens du milieu de la SF et du fantastique interprètent des petits rôles. J'étais censé jouer un pharmacien qui refuse de vendre des remèdes à Lily Tomlin, laquelle est si petite à ce moment-là qu'elle est perchée sur l'épaule d'un gorille intelligent, ce qui donne une idée des altérations imposées à mon idée de départ. J'ai décliné cette proposition. En fait, l'ouverture de leur scénario est presque identique à celle du mien, parfois mot à mot. Les différences deviennent par la suite de plus en plus nombreuses. Ce livre ne signifie plus grand-chose pour moi aujourd'hui. C'est le cas de tout ce que j'ai écrit par le passé. Si je devais choisir, je dirais que je lui préfère « Je suis une légende », mais je me suis bien trop éloigné de ces deux romans pour être objectif. Si bien que je ne changerai pas une seule ligne de L'homme qui rétrécit. Il appartient à mon histoire. Je n'ai aucune raison de le réécrire, même si la relative indifférence qu'il m'inspire est tempérée par le plaisir que m'a apporté son succès. L'autre jour, j'ai relu la première nouvelle que j'ai jamais vendue, « Journal d'un monstre », et je ne me trouve aucun point commun avec elle. Je me souviens avoir écrit certaines phrases, mais elles me paraissent être de la main d'un autre. Je suis sûr que vos œuvres de jeunesse vous font la même impression. L'homme qui rétrécit n'a fait l'objet d'une édition reliée que très récemment, et il figure désormais au catalogue du Science Fiction Book Club. Avant cela, on ne le trouvait qu'en format de poche. En fait, « Je suis une légende » tient davantage de la science-fiction que « L'homme qui rétrécit ». Celui-là m'a demandé beaucoup plus de recherche que celui-ci. Les explications scientifiques de « L'homme qui rétrécit » ne sont que des balivernes. Bien sûr, j'ai posé quelques questions autour de moi, j'ai lu quelques bouquins, mais il m'est impossible d'expliquer le phénomène de façon convaincante. Et je rougis encore d'avoir fait rétrécir Scott Carey au rythme d'un septième de pouce par jour, plutôt que d'avoir adopté une progression géométrique, sans parler de l'inquiétude irrationnelle que lui inspirent les auteurs. Mais au diable tout cela. Si j'avais attendu quelques années de plus, jamais je n'aurais pu écrire « Journal d'un monstre », tant ce texte me paraît dénué de toute logique. Quelle différence ça peut faire? Comme je l'ai déjà dit, j'ai pris du plaisir à écrire ce livre, en particulier parce que j'étais le Boswell de Scott Carey, parce que je le voyais tous les jours explorer l'univers de la cave. J'avais apporté une tranche de gâteau dans la cave, je l'ai laissée sur une étagère, et elle a fini par faire partie de mon récit. Je pense que certains des incidents qui surviennent durant la période où Scott rétrécit sont réussis. L'homme qui l'embarque dans sa voiture quand il fait du stop, la naine, les garçons qu'il pourchasse, son mariage qui se détériore.
Il est plus facile de résumer l'homme qui rétrécit en adoptant le plan chronologique initialement choisi par Matheson. Après avoir traversé un banc de brume radioactive, Carrie commence à rétrécir d'un septième de pouce par jour, soit environ un pied par trimestre. Comme le suggère Matheson, ce rythme n'est guère convaincant. Mais comme il s'empresse de l'ajouter, quelle importance ça a-t-il du moment que nous avons conscience de ne pas lire un bouquin de SF pur et dur, tel qu'auraient pu en écrire Arthur C. Clarke, Isaac Asimov ou Larry Niven? De la même manière, il n'est guère plausible que des enfants accèdent à un autre univers en passant par une armoire. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le cycle de Narnia de C.S. Lewis. Ce n'est pas l'analyse technique du processus de rétrécissement qui nous intéresse. Et ce rythme d'un pouce par semaine nous permet au moins d'en mesurer l'avancée et les effets sur Scott Carey. Les aventures que vit Scott à mesure qu'il rétrécit nous sont racontées sous forme de flashback. La principale ligne narrative est consacrée à ce qu'il croit être son ultime semaine d'existence, celle durant laquelle il doit passer d'un pouce à zéro. Il s'est fait piéger dans la cave alors qu'il tentait d'échapper à la fois à un oiseau et à son propre chat. Il y a quelque chose de particulièrement glaçant dans cette lutte opposant Scott à son chat. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si vous étiez subitement réduit à une hauteur de 7 pouces et si Gros Minet vous apercevait en train de courir comme un dératé sur le parquet? Les chats, ces tueurs amoureux du monde animal, sont peut-être les plus terrifiants des mammifères. Je n'aimerais pas me retrouver dans ce genre de situation. Matheson se montre sans doute le plus brillant lorsqu'il nous peint le portrait d'un homme seul, luttant désespérément contre des forces qui le dépassent. Voici la conclusion de son duel avec l'oiseau, à l'issue duquel il se retrouve pris au piège dans la cave. Il se remit debout et bombarda l'oiseau de poignées de neige qu'il voyait retomber de son bec grand ouvert. Le moineau recula. Scott se retourna, réussit tant bien que mal à avancer de quelques pas, et l'oiseau était une fois de plus sur lui, le giflant de ses ailes humides. Scott fit de grands moulinets des deux bras et sentit ses mains heurter les dures arêtes du bec. L'oiseau reprit son envol. Enfin, glacé et trempé, il se retrouva adossé au soupirail, toujours en train de projeter de la neige sur le moineau dans l'espoir que celui-ci abandonnerait et qu'il n'aurait pas à sauter dans la cave, dont il serait alors prisonnier. Mais l'oiseau continuait de revenir, de fondre sur lui, de faire du surplace devant lui. Le bruit de ses ailes pareil à celui des draps humides claquant dans un vent violent. Soudain, la pointe du bec lui percuta le crâne, lui entaillant la peau, le rejetant contre la maison. Il ramassa de la neige et la jeta, ratant sa cible. Les ailes continuaient de le gifler, le bec lui fit une nouvelle entaille. Lâchant un cri de saisissement, Scott bondit vers l'ouverture laissée par le carreau manquant. Il s'y faufila sans plus réfléchir. Lancé à ses trousses, l'oiseau le heurta, achevant de le faire basculer à l'intérieur. Scott Carey mesure 7 pouces de haut lorsque l'oiseau le force à se réfugier dans la cave. Matheson nous a clairement fait comprendre que son roman est en partie une comparaison entre macrocosme et microcosme. Et les 7 semaines que son héros passe dans cet univers clos lui font vivre des expériences qui reflètent avec précision celles qu'il a vécues dans le monde extérieur. Lorsqu'il arrive dans la cave, il en est le roi. Il n'a presque aucun problème à utiliser sa puissance d'homme pour contrôler son environnement. Mais à mesure qu'il rétrécit, sa puissance l'abandonne peu à peu et sa némésis apparaît. L'araignée s'avançait vers lui dans l'ombre des étendues sableuses, tricotant furieusement de ses pattes immenses. Son corps ressemblait à un œuf gigantesque et luisant qui tremblait de toute sa masse noire, tandis qu'elle chargeait à travers les monticules privés de vent, laissant dans son sillage des ruissellements de sable de sa trace. L'araignée gagnait du terrain. L'œuf que formait son corps perché sur ses pattes en pleine action, un œuf dont le jaune était baigné de poison mortel. Il reprit sa course, le souffle coupé, le sang glacé par la terreur. Aux yeux de Matheson, macrocosme et microcosme sont en fin de compte des termes interchangeables. Et la veuve noire, qui partage la cave avec Scott, symbolise tous les problèmes auxquels il a dû faire face lors de son rétrécissement. Lorsque Scott prend conscience du seul élément de son être qui n'a pas diminué, à savoir sa capacité à penser et à planifier, il prend également conscience d'une source de pouvoir qui ne dépend en aucune manière du cosme où il se trouve. Il réussit ensuite à sortir de la cave, un univers que Matheson rend aussi étrange et effrayant qu'une autre planète, et finit par découvrir que, pour la nature, il n'y avait pas de zéro, et qu'il existe un lieu où macrocosme et microcosme se rencontrent. L'homme qui rétrécit peut être lu comme un excellent récit d'aventure. Il fait partie de ces rares bouquins que j'offre souvent à mes amis en leur enviant l'expérience qui les attend. Parmi les autres figurent Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, L'Écharpe de Robert Bloch et La Révolte des Carnassiers de Berton Ruescher. Mais le roman de Matheson est bien plus qu'un récit d'aventure, un genre de guide de survie à l'usage du petit peuple. Plus sérieusement, c'est un roman qui traite avec intelligence du concept de puissance, comment on la gagne et comment on la perd. Permettez-moi de m'écarter quelques instants du roman de Matheson. Je reviendrai, comme disait le général MacArthur, afin de prononcer une déclaration quelque peu surprenante. Toute la littérature fantastique tourne autour du concept de puissance. Les meilleurs ouvrages du genre nous présentent des personnages qui la gagnent en payant un coût élevé ou qui la perdent de façon tragique. Les ouvrages médiocres, des personnages qui la détiennent et l'exercent sans jamais la perdre. En général, le mauvais fantastique séduit des personnes qui se sentent privées de puissance dans leur vie quotidienne et qui s'en injectent une dose revigorante en lisant les aventures de barbares musculeux dont la force extraordinaire n'est surpassée que par leur virilité encore plus extraordinaire. Ces histoires nous présentent le plus souvent un héros plus grand que nature, affrontant des hordes de démons sur l'escalier d'albâtre d'un temple en ruine, tenant une épée d'une main et une créature court-vêtue au creux de son bras libre. Ce sous-genre du fantastique, que ses amateurs appellent la « sword and sorcery », n'est pas forcément ce qui se fait de pire, mais il n'est quand même pas transcendant. En gros, il s'agit de romans de boy scout, avec un peu plus de sexe et des peaux de bête à la place des shorts, et le plus souvent un dessin de Geoff Johns en couverture. Les romans et les nouvelles de Sword and Sorcery sont des histoires de puissance écrites pour des impuissants. Lorsqu'il rentre chez lui, l'employé de bureau qui tremble en voyant les jeunes voyous traînant près de son arrêt de bus peut s'imaginer en train de brandir une épée, le ventre miraculeusement aplati et les muscles transformés en ces barreaux d'acier qu'évoquent si souvent les tâcherons de la littérature populaire. Le seul écrivain à avoir tiré son épingle de ce jeu-là est Robert E. Howard, un génie excentrique qui a vécu et qui est mort dans le Texas rural. Howard s'est suicidé alors que sa mère, atteinte d'un mal incurable, venait de sombrer dans le coma, apparemment incapable d'affronter la vie sans elle. Howard a triomphé des limites imposées par son matériau infantile grâce à la force de son écriture et grâce aussi à son imagination, laquelle était bien plus puissante que ne le fut jamais son héros Conan, même dans ses rêves les plus fous. Les meilleurs textes de Howard sont si chargés d'énergie qu'ils semblent émettre des étincelles. Des nouvelles comme « Le peuple du cercle noir » luisent d'une lueur farouche et inquiétante. Quand il était au mieux de sa forme, Howard était le Thomas Wolfe du fantastique, et la plupart des récits qu'il a consacrés à Conan semblent se mélanger les pinceaux à force de dynamisme. Mais une bonne partie de son œuvre est médiocre, voire carrément nullissime. Voilà qui peinera et fâchera ses légions de fans, mais c'est à mon sens le terme qui convient. Robert Bloch, un des contemporains de Howard, avait jadis suggéré dans sa première lettre à la revue Weird Tales que Conan lui-même n'était pas si terrible que ça. Selon Bloch, Conan aurait dû être banni dans les ténèbres extérieures et condamné à se servir de son épée pour découper des figurines en papier.
Inutile de dire que les hordes d'admirateurs de Howard n'ont pas apprécié. Sans doute que ce pauvre Bob Block aurait été lynché si l'édite Horde avait décidé de marcher sur Milwaukee. Encore en dessous des barbares de la Sword and Sorcery, il y a les super-héros qui prolifèrent dans les comic books publiés par les deux géants survivants du genre. Encore que « géant » soit peut-être un bien grand mot. Selon une enquête publiée dans le magazine Creepy en 1978, le lectorat du comic book semble avoir diminué de façon irrévocable. Ces personnages, que leur dessinateur appelle familièrement « héros en caleçon long », sont invincibles. Le sang ne coule jamais de leurs organismes magiques. Ils réussissent à mettre sous les verrous des criminels aussi pittoresques que l'ex-Luthor et l'homme sable, sans avoir à ôter leur masque pour témoigner devant un tribunal. Leurs défaites ne sont jamais que provisoires. Au sommet de l'échelle, nous trouvons des personnages qui, soit découvrent en eux-mêmes une puissance dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, voire Thomas Covenant dans la remarquable trilogie de Stephen Donaldson, les chroniques de Thomas l'Incrédule, ou encore Frodon dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, soit perdent leur puissance avant de la retrouver, à l'instar de Scott Carey dans L'Homme qui rétrécit. Comme nous l'avons déjà souligné, l'horreur n'est qu'un sous-ensemble du fantastique. Et qu'est-ce qu'une histoire fantastique, sinon une histoire de magie? Et qu'est-ce qu'une histoire de magie, sinon une histoire de pouvoir? L'un définit l'autre, ou presque. Le pouvoir, c'est la magie. La magie, c'est la puissance. Le contraire de la puissance, c'est l'impuissance, c'est-à-dire la perte de la magie. On ne trouvera pas trace d'impuissance dans les histoires de Sword and Sorcery. Pas plus que dans les aventures de Superman, de Batman et de Captain Marvel que nous avons lues étant enfants, avant, dans le meilleur des cas, de passer à des formes littéraires moins infantiles et plus ouvertes sur les réalités de la vie. Le thème principal du fantastique, ce n'est pas la possession et l'usage de la magie. Sinon ce serait Sauron, le héros du Seigneur des Anneaux. C'est, du moins il me le semble, la découverte et l'apprentissage de la magie. Et pour revenir au roman de Matheson, ce concept de rétrécissement est bien fascinant, n'est-ce pas? L'esprit pense immédiatement à une foule de symboles, dont la plupart tournent autour de la dualité puissance-impuissance, sexuelle ou autre. Si le rétrécissement est si important dans le roman de Matheson, c'est parce que Scott Carey commence par considérer la taille comme un pouvoir, une puissance, une magie. Dès qu'il se met à rétrécir, il commence à perdre ces trois choses. Du moins le pense-t-il jusqu'à ce qu'il acquiert une nouvelle perspective. Rien d'étonnant à ce qu'il réagisse à cette triple perte par une crise de rage aveugle. « Que croyait-il donc ? » s'emporta-t-il. « Que j'allais les laisser jouer avec moi ? Tu n'étais pas là, toi, tu n'as rien vu. On aurait dit des enfants à qui on a donné un nouveau jouet. Un homme qui rétrécit. Dieu tout-puissant, un homme qui rétrécit. » Leurs yeux en brillaient de plaisir. À l'instar des jurons poussés par Thomas Covenant dans la trilogie de Donaldson, la rage de Scott souligne son impuissance plutôt qu'elle ne la dissimule. Et c'est en partie cette colère qui fait de lui un personnage si intéressant et si crédible. Il n'est ni Conan, ni Superman. Scott perd pas mal de sang avant de s'échapper de sa cave, et lorsque nous assistons à ses tentatives de plus en plus frénétiques, nous le soupçonnons parfois d'être à moitié fou. Ni Doc Savage. Scott ne trouve pas toujours la solution à ses problèmes. Il lui arrive souvent de rater son coup, et il réagit de la façon dont vous et moi réagirions probablement dans les mêmes circonstances. Il pique une crise. En fait, si nous envisageons le rétrécissement que subit Scott comme le symbole d'une maladie incurable, et l'avancement de celle-ci a pour conséquence une perte de puissance analogue au rétrécissement, nous voyons que les réactions que lui donne Matheson correspondent au schéma élaboré par les psychologues. Sauf que ce schéma fut mis en évidence bien des années après la parution du roman.
Scott passe de l'incrédulité à la colère, puis à la dépression, puis enfin à l'acceptation. Son cas, semblable à celui d'un cancéreux, le conduit à accepter l'inévitable s'il veut être en mesure de trouver un nouvel accès à la magie. Pour Scott, tout comme pour bon nombre de malades en phase terminale, l'ultime étape est une sorte d'euphorie consécutive à cette acceptation. C'est fort légitimement que Matheson a recours au flashback pour attaquer d'emblée avec les bons passages. Mais on est en droit de se demander à quoi aurait ressemblé son livre s'il avait choisi de l'écrire suivant un plan chronologique. La perte de puissance que subit Scott nous est exposée lors de plusieurs épisodes dispersés dans le récit. Il est pourchassé par des adolescents, qui le prennent pour un petit garçon ordinaire. Puis il est pris en autostop par un homme qui se révèle être un homosexuel. Il se sent de moins en moins respecté par sa fille Beth, en partie à cause de ce bon vieux principe qui veut que « la force, c'est le droit ». Ou encore pourrions-nous dire « la force, c'est la puissance » ou « la force, c'est la magie ». Et qui n'est jamais entièrement absent des relations parents-enfants, même des plus éclairées. Mais aussi parce que sa perte de taille oblige Beth à restructurer de façon constante les sentiments que lui inspire son père, lequel emménage dans une maison de poupée avant de se retrouver à la cave. Un lecteur morbide imaginera sans peine la petite fille, qui ne comprend pas vraiment la situation, profitant d'un jour de pluie pour inviter ses copines à jouer avec son papa. Mais ce sont les relations de Scott avec Lou, son épouse, qui lui posent ses problèmes les plus douloureux. Ce sont des problèmes à la fois personnels et sexuels. Et je pense que la plupart des hommes, même aujourd'hui, ont tendance à identifier magie et puissance sexuelle. Même quand une femme ne veut pas, elle peut. Un homme, lui, découvre parfois qu'il ne peut pas alors même qu'il veut. C'est grave. Et alors que Scott, qui mesure à présent 1m25, revient du centre médical où il a subi de nouveaux tests, il se retrouve dans une situation où la perte de magie sexuelle devient cruellement évidente. Lou leva les yeux et sourit. « Que tu es mignon !» dit-elle. Ce n'était dû ni à ses paroles ni à son expression, mais soudain il reprit conscience, affreusement, de sa taille. Ses lèvres s'étirèrent en un semblant de sourire, et il alla s'asseoir auprès d'elle pour le regretter aussitôt. Lou renifla. Tu sens bon ?»« C'est toi qui es mignonne comme tout, » répondit-il. « Magnifique !»« Magnifique !» pouffa-t-elle. « Certainement pas !» Il se pencha brusquement vers elle et l'embrassa dans le cou. La main gauche de Lou lui caressa lentement la joue. « Voyez-moi ça, comme c'est doux !» murmura-t-elle. Il déglutit. Lui parlait-elle vraiment comme à un petit garçon? Et quelques minutes plus tard, il expira lentement par le nez. Je suppose que ce serait assez grotesque de toute manière. Étant donné mon apparence, ce serait comme « Je t'en prie, mon chéri. » Pas question de le laisser aller plus loin. Tu rends les choses encore plus difficiles. Regarde-moi. Comment ça pourrait être pire? Plus tard, au cours d'un autre flashback, nous découvrons un Scott devenu voyeur, espionnant la babysitter que Louise a engagée pour s'occuper de Beth. Dans une série de scènes à la fois horribles et comiques, Scott transforme cette fille boutonneuse et grassouillette en bombe sexuelle pour gamin masturbateur. Cette régression à l'adolescence nous montre à quel point Scott a perdu sa magie sexuelle. Mais quelques semaines plus tard, Scott mesure à présent 45 cm et il rencontre Clarisse, une naine qui travaille dans un cirque. Et c'est cet épisode qui nous permet de comprendre le credo de Matheson. La magie perdue peut être retrouvée. La magie existe sur plusieurs niveaux et devient ainsi la force unificatrice qui rapproche le macrocosme du microcosme. Lorsqu'il rencontre Clarisse, Scott est un peu plus grand qu'elle, et il découvre dans sa roulotte un univers à sa taille. un environnement dans lequel il peut réaffirmer son propre pouvoir. Il en eut la respiration coupée. C'était là son monde, un monde à sa mesure. Des chaises et un divan sur lesquels il pouvait s'asseoir sans s'y sentir englouti. Des tables auprès desquelles il pouvait se tenir, dont il pouvait atteindre la surface au lieu d'avoir à passer en dessous. Des lampadaires qu'il pouvait allumer et éteindre sans avoir à vainement lever la tête vers leur cime, comme si c'était des arbres. Et, inutile de le dire, il découvre également sa magie sexuelle au cours d'un épisode aussi touchant que pathétique. Nous savons bien qu'il va la reperdre une fois que Clarisse sera à son tour devenue gigantesque par rapport à lui. Et bien que l'impact de ces épisodes soit quelque peu dilué par le parti pris du flashback, le lecteur comprend parfaitement ce que l'auteur veut lui dire. Ce qui a été trouvé peut être retrouvé. Et la rencontre de Scott et de Clarisse justifie la conclusion étrange mais puissante du roman. Puis il réfléchit. Si la nature existait à une infinité de niveaux, peut-être en allait-il de même pour l'intelligence. Scott Carey s'élança dans son nouvel univers. Tous ses sens en éveil. Espérons que ce n'est pas pour être dévoré par la première limace ou la première amibe qui croisera son chemin. Dans le film de Jack Arnold, dont Matheson a écrit le scénario, la dernière réplique de Scott est un cri de triomphe. « J'existe encore !» Un cri qu'il pousse sur fond de nébuleuses et de galaxies. J'ai demandé à Matheson s'il fallait voir là-dedans des connotations religieuses, voir un début d'intérêt pour la vie après la mort, un sujet qui a pris une importance croissante dans ses œuvres ultérieures, voire « La maison des damnés » et « Au-delà de nos rêves ». Voici sa réponse. Le cri de Scott Carey ne faisait à mes yeux que signaler une continuité entre le macrocosme et le microcosme, pas entre la vie et la mort. Coïncidence intéressante, j'ai été contacté pour réécrire le scénario du Voyage fantastique, dont Columbia projette de faire un remake. Je ne suis pas arrivé à m'y mettre, car c'était un sujet trop technique pour moi qui souhaite désormais privilégier les personnages. Mais c'était un peu un prolongement de la conclusion de L'homme qui rétrécit, une expédition militaro-scientifique dans le microcosme. L'homme qui rétrécit nous apparaît comme un classique de l'histoire de survie. Ce roman ne comporte qu'un seul personnage, et il s'y pose les questions les plus élémentaires. Manger, s'abriter, survivre, détruire la Némésis, une force dionysiaque dans l'univers, somme toute apollinien de la cave. Bien qu'on ne puisse pas qualifier ce livre d'érotique, il a néanmoins le mérite de traiter l'angle sexuel d'une façon plus réfléchie que ne le faisait la littérature populaire des années 1950. Dans le milieu de la science-fiction et du fantastique, Matheson fut un des premiers à affirmer le droit des écrivains à traiter les problèmes sexuels de façon sensible et réaliste. Parmi les autres auteurs ayant pris part à cette lutte, et ce fut une lutte, nous pourrions citer Philip Rosé Farmer, Harlan Ellison et surtout Theodore Sturgeon. On a peine aujourd'hui à imaginer le scandale qu'ont causé les dernières pages d'Un peu de ton sang, où Sturgeon expose sans ambiguïté la méthode utilisée par son vampire pour se nourrir. « C'est la pleine lune », écrit-il à sa petite amie d'un ton à la fois glaçant et nostalgique. « Et j'aimerais bien avoir un peu de ton sang. » Mais scandale il y eut. Peut-être pourrions-nous reprocher à Matheson d'avoir abordé l'angle sexuel de son sujet d'une façon un peu trop compassée. Mais vu le contexte de l'époque, je pense qu'on peut l'applaudir pour la simple raison qu'il a osé le faire. En tant que fable sur la puissance perdue et retrouvée, L'homme qui rétrécit peut être considéré comme un des meilleurs romans parus durant la période qui nous intéresse. Et je ne voudrais pas vous donner l'impression que je parle uniquement de puissance sexuelle. Il existe certains critiques plutôt pénibles, pour la plupart des freudiens brouillons, qui pensent que le fantastique et l'horreur, dans leur ensemble, ne parlent que de sexe. Alors que j'assistais à un cocktail durant l'automne 1978, j'ai entendu une analyse de la conclusion de L'homme qui rétrécit. Je passerai sous silence le nom de la femme qui a exposé cette théorie, mais c'est un nom qui vous serait familier si vous êtes amateur de science-fiction, qui mérite d'être répété dans ces pages. « En termes symboliques, a déclaré cette femme, l'araignée représente le vagin. Scott réussit à tuer sa némésis, la veuve noire, la plus vaginale de toutes les araignées, en l'empalant sur une épingle. Symbole phallique de toute évidence, non ? Par conséquent, après avoir échoué à satisfaire sexuellement sa femme, puis après avoir satisfait Clarisse pour la perdre aussitôt, Scott tue symboliquement ses pulsions sexuelles en empalant l'araignée. C'est là son ultime acte sexuel, à l'issue duquel il s'échappe de sa cave et retrouve sa liberté. Toute cette démonstration est bien intentionnée, mais c'est quand même de la connerie pure. Et on ne me fera jamais prendre ce genre de vessie pour une lanterne. Si je me suis permis de vous raconter cette anecdote, c'est pour souligner que les écrivains de fantastique et d'horreur doivent fréquemment encaisser ce genre de conneries. Le plus souvent du fait de personnes qui considèrent ouvertement ou en secret que les écrivains d'horreur ne sont pas tout à fait sains d'esprit. À leurs yeux, les romans d'horreur ne sont que des tests de Rorschach qui finiront un jour par leur révéler les fixations anales, orales ou génitales de leurs auteurs. En commentant les critiques négatives qui ont accueilli en 1960 l'essai de Leslie Fiedler intitulé « Love and Death in the American Novel », Wilfried Scheid remarque « Les interprétations freudiennes sont toujours accueillies par des éclats de rire. » Et c'est tant mieux, si vous voulez mon avis. Car rappelez-vous que si les romanciers dits normaux sont considérés avec une certaine méfiance par leurs voisins, l'écrivain d'horreur, lui, est toujours invité à s'allonger sur un divan. Et nous sommes parfaitement normaux dans notre immense majorité. Hé hé. Tout charabia freudien mis à part, L'homme qui rétrécit peut être considéré tout simplement comme une excellente histoire, qui se trouve traitée de la politique intérieure de la puissance, ou, si vous préférez, et je préfère, de la politique intérieure de la magie. Et la mort de l'araignée aux mains de Scott a pour but de nous montrer que la magie ne dépend pas de la taille, mais du cœur et de l'esprit. Si ce livre nous apparaît comme beaucoup plus grand que d'autres œuvres du genre, petit jeu de mots parfaitement volontaire, et considérablement plus réussi que d'autres bouquins où des hommes miniatures affrontent scarabées, mantes religieuses et autres bestioles, voir par exemple « Cold War in a Country Garden » de Lindsay Guthridge, c'est parce que Matheson a écrit son histoire de façon à la fois palpitante et intimiste. Et, en fin de compte, parce qu'il réussit toujours à nous convaincre.